VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonjour Roger Billon, bonjour à tous. Midi à Douala au Cameroun, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé hier que les États-Unis n'avaient pas pleinement rempli leurs engagements sur le retrait des forces kurdes en Syrie avant de s'envoler pour Washington pour des entretiens avec le président Donald Trump. Je lui dirai, document à l'appui, que l'accord que nous avons conclu sur la Syrie n'a pas été pleinement respecté, a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à l'aéroport d'Ankara. L'Afghanistan va libérer 3 prisonniers talibans de haut rang, a déclaré mardi, aujourd'hui donc, le président afghan Ashraf Ghani, suggérant que cette décision très difficile pourrait s'effectuer en échange de la libération de 2 professeurs étrangers retenus en otage depuis 2016 par les insurgés. Parmi les 3 prisonniers talibans figure Anas Akhani, le fils du fondateur du réseau Jalaluddin Akhani, une importante branche de la rébellion talibane et auteur de nombreuses attaques contre Kaboul et ses alliés de l'OTAN. Les 2 universitaires, l'américain Kevin King et son confrère australien Timothy Weeks, ont été capturés par des hommes armés portant des uniformes de policiers le 7 août 2016, alors qu'ils quittaient l'université américaine de Kaboul pour regagner leur résidence. Immigration aux États-Unis, le sort de 700 000 jeunes migrants aux mains de la justice américaine, des dizaines de jeunes migrants qui ont grandi sans papier sur le sol américain font le pied de grue devant la Cour suprême ici à Washington à l'issue d'une marche de 370 km. Michel Joseph.
La Cour suprême des États-Unis doit examiner ce mardi le programme dit DACA qui a été adopté en 2012 par le président Barack Obama et qui interdit d'expulser ces jeunes et leur a donné un numéro de sécurité sociale qui leur permet d'étudier, de travailler ou de conduire aux États-Unis. Son successeur, le président Donald Trump, a décidé en 2017 de mettre un terme à ce programme dit DACA. Des tribunaux ont provisoirement bloqué sa décision, accordant un répit à ceux qu'on surnomme les Dreamers et dont le sort est maintenant aux mains des 9 juges de la Cour suprême. Pour plaider leur cause, ces jeunes sont partis à pied de New York le 26 octobre. Ils sont arrivés dimanche devant la haute juridiction des États-Unis. Leur cortège a grossi à mesure qu'ils s'approchaient de la capitale fédérale. Certains Américains ont brandi des panneaux sur lesquels on peut lire « Nous sommes tous des Dreamers » en solidarité avec ces quelques 700 000 jeunes immigrés entrés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants.
L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, a détecté des particules d'uranium naturel dans un lieu non déclaré en Iran, dont les activités nucléaires inquiètent extrêmement l'Union européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Depuis mai, Téhéran se désengage progressivement de l'accord de Vienne, conclu en 2015 avec les Européens, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui autorisent les inspections les plus poussées jamais accordées à l'AEA. Le président américain Donald Trump avait unilatéralement retiré son pays de l'accord en mai 2018, réimposant des sanctions sur l'économie iranienne qui l'ont plongé dans une grave récession. Téhéran espère faire pression sur les autres États parties pour qu'ils l'aident à contourner ces sanctions.
Nos infos sur voaafrique.com.
Sur le continent, 5 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées, les ADF, au 13e jour d'opération d'envergure annoncée par l'armée congolaise contre leur fief dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué daté du 10 novembre, l'armée congolaise dit vouloir éradiquer de manière définitive les groupes armés terroristes actifs dans l'est de la RDC. Des habitants reprochent cependant aux autorités congolaises de concentrer les opérations dans les environs de Beni et non vers le nord, vers la frontière ougandaise, par exemple Mbao et Erigenti. Une 20aine de civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF depuis l'annonce du lancement des opérations militaires le 30 octobre. Au Cameroun, les réactions sont mitigées après l'annonce avec 18 mois de retard de la date des élections locales et législatives. L'opposition estime que l'insécurité dans plusieurs régions rendra ces élections impossibles. Pour sa part, le gouvernement affirme que l'armée a restauré la paix dans les zones de crise Reportage Moki Edwin Kinzeka, récit Lionel Gaïma.
L'armée camerounaise a annoncé lundi qu'elle était impliquée dans des affrontements sanglants avec des séparatistes à Bamenda et Misadje dans le nord-ouest anglophone ainsi que dans les villes de Koumba, Manfé et Mouyuka dans le sud-ouest. Les médias locaux rapportent que 9 corps ont été découverts par des civils. La veille, un décret du président Paul Biya a fixé au 9 février la date des élections locales et législatives. La sénatrice Emilian Kese du Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, estime que cette décision était attendue après la tenue du dialogue national le mois dernier.
Le monde a entendu que nous avons tenu un dialogue et tout le monde attend de voir la mise en œuvre de ces recommandations afin que notre pays, dont les fondements ont été secoués, puisse retrouver un peu de calme et de paix.
Le SDF et d'autres partis tiennent des concertations pour décider s'ils vont, oui ou non, participer à ce scrutin. Les élections étaient prévues en septembre 2018, mais le président Biya les avait reportés, affirmant qu'il était difficile de tenir les législatives et municipales parallèlement à la présidentielle en octobre de la même année. Pour les critiques, Paul Biya était en réalité préoccupé de l'insécurité dans les régions anglophones et dans l'extrême nord du pays où les troupes combattent Boko Haram depuis 2014. L'analyste Vitalis Njumé du Centre camerounais pour la paix et le développement pense que les séparatistes doivent déposer les armes et permettre aux habitants des zones anglophones de choisir leurs députés.
Ceux qui se battent limitent les chances de la paix. Ils doivent réfléchir pour que l'élite, les politiciens puissent retourner dans leurs circonscriptions et voir comment les campagnes et les élections peuvent se dérouler dans la paix.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, assure pour sa part que le gouvernement a demandé à l'armée de sécuriser les régions troublées pour les élections.
Nous avons des problèmes de sécurité, mais tout est mis en place. Les forces de défense et de sécurité sont reconnues. Pour leur professionnalisme, soutiendront les administrations dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous avons pris des mesures de sécurité strictes que nous ne pouvons pas révéler.
Le conflit avec Boko Haram a déplacé des centaines de milliers de personnes près de la frontière avec le Nigeria et la crise dans les régions anglophones a fait près de 3000 morts, un demi-million déplacés.
L'armée malienne mène actuellement dans le centre du pays une vaste offensive dans laquelle plusieurs djihadistes ont été tués, a indiqué le gouvernement dans un communiqué lundi. L'opération menée avec le soutien de l'armée de l'air malienne, selon le communiqué, fait suite à 2 attaques meurtrières récentes des djihadistes dans lesquelles une centaine de soldats maliens ont trouvé la mort en un mois. 3 assaillants ont été abattus hier à Futuri, c'est dans l'est du Burkina Faso, dans ce que l'armée burkinabé qualifie de vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire Bagassi Koura.
L'armée a expliqué l'incident dans un communiqué disant, et je cite, « Le 11 novembre, à l'aube, aux environs de 5 heures du matin, le détachement militaire de Futuri, qui se trouve dans la province de la Komandiari, a été la cible d'une attaque terroriste. L'état-major des armées souligne que la vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins 3 assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions. 2 soldats du détachement ont été légèrement blessés. Toujours selon le texte, réagissant à cette attaque, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Minungu, a félicité les unités engagées, et particulièrement le détachement de Futuri, pour leur, je cite, « détermination ». Il a aussi exhorté l'ensemble des forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, selon lui, mèneront indubitablement à la victoire.
Le président guinéen Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un 3e mandat en 2020. Cette date avait été avancée samedi par le président de la commission électorale. Elle restait cependant suspendue à l'homologation du président Alpha Condé. La date du 28 décembre avait été proposée précédemment, mais l'opposition et ses représentants au sein de la commission électorale avaient dénoncé un projet irréaliste et servant, selon elle, le projet attribué au président Condé de briguer sa propre succession et de faire réviser pour cela la constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé lundi les militaires en Guinée-Bissau à rester à l'écart de la crise politique dans ce pays, réclamant à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre. Comme prévu, les craintes d'un possible coup de force sont nourries par l'histoire de l'ex-colonie portugaise qui est allée de push en tentative de coup d'État depuis son indépendance conquise en 1974. Fin de ce journal, le prochain c'est dans
dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le mardi 12 novembre 2018.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.